Kokeilepa kirjoittaa porkkanana. Pitäis se voida kirjoittaa? Tee.
C'est donc dans cette école de Finlande que nous débutons toute une série de reportages qui vont nous conduire jusqu'au 1er juillet, date à laquelle la France prendra la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Une fois par semaine, dans Et pourtant elle tourne, nous allons vous emmener dans ceux des pays de l'Union dont les médias français parlent le plus rarement. Première escale ce soir à l'extrémité nord de l'Europe, en Finlande. Pays vaste, 340 000 km², mais peu peuplé. 5 millions d'habitants, 12 fois moins que la France. Et la Finlande présente donc une particularité, elle possède le meilleur système éducatif au monde, c'est en tout cas la conclusion du rapport international le plus fiable en la matière, le PISA. La France, qui aujourd'hui est en plein débat, vous le savez, sur les moyens alloués à l'école, se trouve selon ce même classement en milieu de tableau. Pierre Benazet, bonsoir.
Bonsoir, Jean.
Vous êtes en direct de Bruxelles, vous rentrez tout juste de reportage en Finlande, et avec vous, nous allons donc essayer de découvrir les secrets du système éducatif finlandais, un système, on va le voir, très différent du système français. Écoutons d'abord Olli Holmström, vous l'avez rencontré pour nous, c'est l'un des DRH d'une entreprise qui incarne la réussite économique finlandaise, Nokia, et pour lui, ce succès est indissociable, justement, de l'éducation.
L'ascension de Nokia au rang de leader mondial n'aurait pas été possible sans, pour racine, l'excellent système éducatif finlandais. Si vous regardez l'histoire de Nokia, c'est une compagnie qui a réussi à se réinventer plusieurs fois. Tout d'abord au début des années 90, quand la compagnie s'est lancée sur le marché mondial. Je crois que lors de ce point de départ, la capacité des spécialistes finlandais en recherche et développement à faire leurs valises et à aller à l'étranger apprendre de nouvelles choses et permettre à la compagnie de s'étendre d'abord en Europe puis sur les autres continents était alors basée, du moins en partie, sur notre excellente éducation qui donne les capacités pour travailler à l'étranger.
Ce n'est pas nécessairement le genre de propos qu'on entendrait dans la bouche des chefs d'entreprise en France. Traduction effectuée par Franck Mathevon. Le système éducatif finlandais repose sur 4 piliers. Le premier, Pierre Benazet, ce sont les rythmes et les méthodes d'enseignement.
Oui, alors si on prend par exemple le début de la scolarité qui commence à 7 ans et qui dure jusqu'à à peu près 12 ou 13 ans, les élèves sont dans des classes avec un instituteur, il y a souvent des professeurs supplémentaires pour les langues, mais pendant les heures de classe, c'est-à-dire le matin, le principe est d'abord la participation de chacun, la diversité des activités pédagogiques, l'absence totale de cours magistraux, et ce jusqu'à la fin de la scolarité. Le développement de l'enfant est en fait placé avant même l'acquisition de savoir, il semblerait. Je vous propose d'écouter Paola Lehtonen-Moffret qui est justement institutrice.
Souvent les enfants appelle le professeur par le prénom. On se tutoie. Vouvoiement, de toute façon, ça existe presque pas en Finlande. C'est pas par hiérarchie, c'est pas par autorité que ça se passe. Ça se crée comme un lien humain.
Est-ce que le fait que vous ne notez pas les élèves, ça a une influence sur votre relation avec eux?
C'est pas tout à fait vrai qu'on ne les note pas. On les note pas avec les chiffres, mais on donne quand même le bulletin, souvent 2 fois par an, au moins 1 fois par an. C'est vrai qu'on essaie quand même d'encourager plutôt que punir. On essaie quand même de trouver des points forts des élèves et même utiliser le vocabulaire en conséquence. On ne dit pas que l'élève est mauvais, mais on dit plutôt qu'il y a encore des progrès à faire.
Les premières années sont en fait le début d'un tronc commun que suivent la totalité des jeunes Finlandais pendant 9 ans et qui est destiné à leur apprendre surtout l'autonomie à l'issue. La moitié d'entre eux choisissent l'enseignement professionnel, les autres se retrouvent dans l'équivalent de notre lycée où ils ont 3 ans pour réussir les matières nécessaires à l'obtention du baccalauréat. Ils sont libres de choisir leurs cours tous les 2 mois, une grosse différence comme le souligne Olivier Discala, directeur des études françaises au lycée franco-finlandais.
Il n'y a pas la même conception du temps scolaire. L'établissement est aussi un lieu de socialisation et surtout, l'élève peut choisir de faire son lycée en 4 ans et également peut, dans certains examens, même prendre son temps avant de rendre sa copie. C'est aussi lié au fait que le baccalauréat finlandais n'est pas cet examen qui donne accès à l'enseignement supérieur comme le baccalauréat français. C'est plutôt ce qui vient sanctionner l'acquisition dans le dernier cycle des études secondaires d'un socle de connaissances et d'une spécialisation peut-être d'après les modules que l'élève a choisi. En revanche, quelques mois plus tard, les élèves ont l'examen d'entrée aux universités ou dans les écoles supérieures et c'est ça qui va leur permettre de poursuivre les études qu'ils veulent. Le vrai juge de paix n'est pas le baccalauréat, c'est l'examen d'entrée dans les études supérieures. Comme les élèves sont très autonomisés en Finlande, ils choisissent leur rythme de travail. Et bien évidemment, ceux qui ont fait plus de modules que le minimum pendant leurs 3 années de lycée ceux qui ont régulièrement rendu leurs devoirs sont des gens qui sont beaucoup plus prêts à affronter un examen d'entrée. C'est à ce moment-là, finalement, que les gens qui sont à la fois scolaires et qui sont très mûrs sont favorisés. Mais ce qui est très important pour les Finlandais, c'est qu'ils le sont devenus, non pas par la contrainte, mais par le raisonnement, parce qu'ils ont compris que c'était important pour eux.
Ce fonctionnement éducatif, Pierre, il est indissociable du fonctionnement de la société finlandaise tout entière au sens large.
Oui, parce que ce qui est vraiment mis en avant, c'est le développement personnel et l'autonomie des jeunes. On leur apprend avant tout à apprendre. Pour cela, il leur faut faire preuve d'une autodiscipline certaine. Elle est inculquée aux écoliers dès les premières années, mais c'est quasiment acquis d'avance, cette autodiscipline, dans une société très homogène, où les immigrés sont moins d'1%, où on aime que tout fonctionne bien, et où l'exemplaire décollage économique récent cohabite avec des impôts extrêmement lourds et une protection sociale très étendue. Un seul exemple, les cours durent 45 minutes entrecoupés de pauses d'un quart d'heure, mais jamais personne n'est en retard ou dissipé après chacune de ces récréations.
Le deuxième paramètre essentiel, Pierre, il explique certainement pourquoi le système éducatif finlandais est particulièrement égalitaire, c'est un encadrement fort et personnalisé, c'est-à-dire un suivi individuel de l'élève.
Oui, c'est effectivement la principale caractéristique du tronc commun de 7 à 15 ans donc, à savoir l'omniprésence de professeurs spécialisés qui interviennent pendant les cours généraux ou en complément pour soutenir les élèves et détecter le plus tôt possible leurs faiblesses. Personne ne peut être laissé de côté, il n'y a quasiment pas d'institut spécialisé pour les élèves en situation d'échec, car tout le monde passe dans la classe suivante. Comme l'a constaté sur place Olivier Laruelle, professeur et chercheur au Centre d'études et documentation pour l'enseignement du français à l'Université belge de Namur.
Jusqu'à 16 ans, on ne fait pas redoubler. Ça donne une relation beaucoup plus apaisée entre prof et élève. L'élève sait bien que le prof est là pour lui faire apprendre, pour l'accompagner. Mais pour les élèves qui ne travaillent pas ou qui sont faibles, ils basculent rapidement vers la Toussaint dans des classes de rattrapage, soit des classes de rattrapage individualisées s'ils ont une faiblesse, soit dans des classes de rattrapage collectif. C'est pas des heures de cours après l'école, c'est pendant les heures de cours, on laisse le groupe classe avancer très loin dans la matière, et les plus faibles sont sortis de la classe et doivent aller dans des classes de rattrapage.
Le soutien, c'est vraiment une priorité. La Finlande y a réaffecté tous les fonds économisés en réduisant drastiquement le personnel de l'éducation nationale. Écoutez Najat Uakrim-Soivio, conseillère au ministère de l'Éducation.
Dans notre système, il y a à peu près 25% des élèves qui ont aidés. Ça veut dire que nous avons dans presque toutes les écoles, ils ont les professeurs spécialisés qui aident si quelqu'un a les problèmes en lecture. Même s'ils ont dyslexique, on donne une aide individuelle. Et je pense que c'est très rare que quelqu'un redouble.
Ça veut dire qu'il n'y a personne en Finlande, ou très peu de gens, qui sont exclus de l'école fondamentale avec tous les autres?
C'est très peu. C'est moins que 1%.
On entend cette ambiance de cours, Pierre Benazet. Où sommes-nous là précisément?
En parler à l'instant de soutien individuel, c'est l'illustration parfaite puisqu'on est dans une classe où un professeur spécialisé donne un cours approfondi de finnois à quelques enfants d'origine étrangère. J'en profite pour souligner que si d'une part ces enfants seront, comme tous les petits Finlandais, quasi bilingues finnois-suédois à 16 ans, ils doivent aussi obligatoirement suivre un cours dans leur langue d'origine.
Alors arrêtons-nous maintenant sur la troisième clé du succès, c'est l'attention portée au corps enseignant, et d'abord à sa formation. C'est ce que vous a expliqué Pierre, cette institutrice, elle s'appelle Terry Essid.
Notre éducation, ça dure au moins 5 ans, alors on nous considère comme des institutrices complètes, on peut dire. Personnellement, je sens qu'on compte sur mes connaissances pédagogiques. Le résultat, ça se voit avec mes élèves. Je dis souvent à mes élèves que il faut que vous avez confiance à votre cerveau, à vous. Ça veut dire que c'est pas seulement moi qui donne tout, mais que eux aussi, ils apprennent à apprendre des choses eux-mêmes. On a parlé, par exemple, quelqu'un qui dit que j'ai pas envie de faire mes calculs. Alors moi, je dis, c'est quoi ton métier que tu veux être? Quelqu'un me dit que je veux être un footballeur. Alors je dis, mais comment tu fais avec ton salaire? Les autres, ils négocient, ils savent combien ils vont gagner. Et toi, si tu connais pas les bases de mathématiques, tu seras perdu dans la vie alors. Ouais, il comprend.
Un personnel enseignant qui valorise les élèves et un personnel enseignant qui est lui-même valorisé, Pierre.
Oui, c'est pas pour le salaire, mais pour la liberté des professeurs, leur sécurité de l'emploi, la considération sociale dont ils semblent jouir ici. Ça fait une profession très recherchée. Écoutez Claude Antila, qui a passé l'essentiel de sa carrière à enseigner le français, et aujourd'hui, elle a pris son bâton de pèlerin pour venir expliquer aux Français, aux Belges et aux Canadiens les qualités de ce modèle finlandais.
Depuis quelques années, on a relever encore le niveau des enseignants, puisque tout enseignant depuis la fin de la maternelle jusqu'au baccalauréat doit avoir au minimum une maîtrise. Et la maîtrise doit être obligatoirement suivie d'une année de stage dans des écoles d'application et dans des écoles de terrain. Donc les professeurs qui ont des études de matière ou pédagogique ou didactique doivent en plus montrer leurs preuves et avoir des modèles.
Est-ce que ça veut dire que qu'on est nommé par la commune, on est nommé par son établissement, il y a peu de mobilité ?
Eh bien, un professeur devient titulaire quand un poste est vacant, il peut le postuler bien entendu, et s'il est choisi, il devient titulaire à vie de ce poste, donc il n'y a pas de mouvement. Et bien entendu, s'il déménage, il pourra refaire la même opération ailleurs. Mais on est titulaire d'un poste, pas titulaire de l'éducation nationale comme en France.
Il reste un quatrième paramètre essentiel pour comprendre le fonctionnement du système éducatif finlandais. Et là aussi, c'est très différent de la France, Pierre, c'est l'autonomie des établissements.
Oui, parce que le ministère de l'Éducation s'est largement délesté de la tâche de rédaction des programmes scolaires. C'est quasiment les communes et leurs écoles qui les concoctent elles-mêmes. Elles recrutent d'ailleurs directement par petites annonces les professeurs fraîchement émolus de la fac. Johanna Korte-Heinonen est professeur adjoint du lycée franco-finlandais.
Chaque école doit rédiger leur propre programme. Bien sûr, c'est un travail avec les professeurs. Aussi, les parents, on discute les valeurs, on discute les méthodes et on choisit les manières de travailler pour atteindre les buts.
La direction de l'éducation nationale ne vous donne pas des oukases permanents sur la façon dont ça doit fonctionner?
Non, pas du tout. On n'a pas d'inspection, comme par exemple en France. Chaque établissement doit évaluer son travail sur chaque niveau. Bien sûr qu'on apprend déjà des petits à faire des auto-évaluations sur leur travail scolaire. Et chaque niveau fait ses propres évaluations et les enseignants peuvent évaluer la direction de l'école.
Le but de l'école finlandaise, c'est quoi ? Des connaissances ?
Oui, je pense bien que c'est les connaissances et puis la compréhension. Si on voit ça largement, en compréhension des choses en mathématiques, par exemple, pas habilité de faire comme on a dit de faire, mais comprendre pourquoi on fait comme ça. Jusqu'à la compréhension du monde, pour que les enfants deviennent des adultes qui sont capables de faire des décisions qui sont bien pour nous, pour eux-mêmes et pour leurs enfants futurs.
Votre sentiment, Pierre, pour conclure, est-ce que ce modèle finlandais est exportable ?
On peut en tout cas examiner son efficacité. Il coûte comme en France environ 7% du PIB et il permet à ce pays de se préparer des générations futures bien dans leur peau qui suivent des études qui les amèneront dans les métiers où il y aura du travail. Alors c'est peut-être plus facile à réaliser dans un pays qui compte que 5 millions d'habitants, mais avec une taille comparable, la Belgique francophone est loin derrière et comme en France, on y pratique le redoublement.
Merci Pierre pour ce reportage en Finlande et jeudi prochain, nouveau rendez-vous européen. Nous irons avec vous au Danemark. Vos commentaires, bien sûr, sont les bienvenus sur notre site internet. Et pourtant, elle tourne sur franceinter.com. Il est 19h.